Le journal, Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Hervé, bonjour à tous. Quel calendrier le gouvernement va-t-il annoncer ? On sait pour le moment que les discussions sur la réforme des retraites doivent reprendre en janvier. Alors que les grèves se poursuivent dans les transports, les conditions de circulation sont toujours difficiles.
Et leur colère n'a fait que monter à l'annonce de ce projet de réforme. Nous nous intéressons ce matin aux travailleurs du numérique, mobilisés eux aussi.
Cette réforme aura-t-elle un effet sur les municipales ? Elles auront lieu en mars prochain. À Biarritz, non pas un, mais deux membres du gouvernement sont candidats, Didier Guillaume et Jean-Baptiste.
Après la partie routière, la partie ferroviaire du pont de Crimée est aujourd'hui inaugurée en présence du président russe Vladimir Poutine. Ce pont relie la Crimée à la Russie continentale.
20 millions de bouteilles de Prosecco devraient se vendre cette année en France. La boisson italienne a du succès, encore plus pendant les fêtes. Reportage à suivre chez un producteur en Vénétie. Le gouvernement doit annoncer aujourd'hui un programme et le calendrier des concertations sur la réforme des retraites. Malgré la trêve souhaitée par le président Emmanuel Macron et l'UNSA ferroviaire notamment, les perturbations continuent aujourd'hui dans les transports. La SNCF prévoit de faire circuler 40% des TGV, 40% aussi des TER, en partie par autocar. À Paris, 6 lignes de métro sont fermées, précise la RATP. Les discussions sont pour le moment interrompues, elles reprendront en janvier. Le Premier ministre pense déjà à la rentrée, Anne Fauquemberg.
Fermer le banc pour 2019, c'est terminé. Les discussions reprendront après les fêtes. Et à Matignon, Édouard Philippe compte bien garder les idées claires. Retour à la table des négociations dès les premiers jours de janvier avec le nouveau secrétaire d'État à la réforme des retraites, Laurent Pietraszewski. Et puis mi-janvier, une nouvelle méthode sera proposée pour parvenir à un accord. Les syndicats ont beau avoir appelé à une quatrième journée de mobilisation dès le 9 janvier, le Premier ministre ne désespère pas. Lui qui s'est montré optimiste jeudi soir, saluant des avancées concrètes sur la pénibilité, le minimum de pension, la retraite progressive ou encore les transitions en fin de carrière. Les discussions reprendront sur ces points, mais aussi sur les moyens de garantir l'équilibre financier du système, même si l'âge pivot reste une priorité pour le Premier ministre. Pas question non plus de revenir sur la suppression des régimes spéciaux, ce qui fait dire aux syndicats qu'Édouard Philippe n'entend pas.
Anne Fauquemberg. La colère monte chez les salariés des raffineries opposés à cette réforme des retraites. Des assemblées générales sont prévues aujourd'hui dans plusieurs d'entre elles. Hier, la branche chimie de la CGT a décidé l'arrêt total des installations de la raffinerie de l'Avera près de Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Les 8 que compte la France métropolitaine sont affectées par des blocages depuis le 5 décembre. On parle souvent des cheminots, des enseignants, des infirmiers ou encore des avocats. À la longue liste des professions, on peut aussi ajouter les travailleurs du numérique, développeurs, graphistes, consultants, chercheurs. Ils se sont rassemblés la semaine dernière. Derrière la bannière « On est la tech ». C'est du jamais vu dans ce secteur. Ils étaient une cinquantaine à manifester à Paris le 17 décembre dernier. Et précisons que leur mécontentement dépasse aujourd'hui la seule question des retraites, Céline Autain.
Ces travailleurs du web arborent un émoticône point levé en signe de ralliement sur leur pancarte et sur leur site personnel. Un signe aussi de protestation contre une réforme des retraites qui voudrait faire travailler les Français plus longtemps. À l'heure de l'automatisation croissante, c'est un non-sens, selon Richard Hanna, développeur et membre du collectif On est la tech.
L'automatisation, ça permet déjà de réduire le temps de travail parce qu'on réduit le temps de travail ingrat, rébarbatif. Là, le gouvernement veut augmenter la durée du temps de travail, mais aujourd'hui, on est en train justement de produire plus de valeur. Donc, on se pose la question sur le sens de tout ça, en fait.
Au-delà des retraites, avec cet appel, On est la tech entend aussi repolitiser le secteur du numérique, à l'image de ce qui se passe aux États-Unis avec le Tech Lash, ces salariés des GAFA qui critiquent les outils qu'ils ont eux-mêmes contribué à construire. Le collectif veut ainsi porter une autre vision du numérique, moins mercantile et plus soucieuse de son impact social et environnemental.
Il y a notre président qui a débloqué 5 milliards pour les startups sans se demander où est-ce que va l'argent alors que on a eu du mal à trouver les 300 millions pour les hôpitaux. C'est une hérésie.
Une vision que partage Hélène Maître, également membre du collectif.
Nous, aujourd'hui, on a les compétences de construire ce numérique, de construire ces machines, de construire ces outils. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos compétences soient mises au service de la société et que donc les personnes qui vont travailler avec les outils qu'on aura construits auront une qualité de vie qui sera meilleure.
Tout juste naissant, le collectif espère bien grandir et rallier à sa cause quelques-uns des 600 000 travailleurs du numérique en France.
La politique à l'échelle locale, cette fois Zoom, aujourd'hui sur l'élection municipale à Biarritz. Ce scrutin fait l'objet de toutes les attentions. Deux membres du gouvernement comptent se lancer dans la course, mais sur des listes différentes. Le premier est Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture. Le second, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État aux affaires étrangères en charge du tourisme, Pierre Neveu.
La scène se passe au mois d'août dernier, quelques jours avant le G7 de Biarritz. On est dans les arènes de Bayonne, Didier Guillaume assiste à la corrida. Un moment qui est alors immortalisé sur les réseaux sociaux et les sites de presse et qui obligera le ministre de l'Agriculture à regretter publiquement, quelques jours plus tard, d'avoir pu choquer des citoyens qui sont contre ces pratiques, lui le défenseur du bien-être animal. Mais c'est à ce moment-là que l'on commence à prêter des intentions politiques locales à l'ancien sénateur socialiste de la Drôme. Didier Guillaume à la mairie de Biarritz, l'idée fait son chemin, d'autant que le ministre déclare un attachement viscéral au Pays Basque. À la mairie, on sent venir le danger, porté par le succès du G7, et malgré une opposition locale virulente, le maire modem Michel Venac annonce alors briguer un second mandat. Il crée alors un ticket avec le secrétaire d'État au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, ancien sénateur Les Républicains de Lyon, et dont la compagne Frédérique Espagnac n'est autre que la sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques.
Deux membres du gouvernement en lice pour les municipales dans la même ville, Pierre, c'est inédit.
Situation d'autant plus incongrue qu'Édouard Philippe avait fixé les règles. Les ministres ne doivent pas se déclarer avant le mois de janvier prochain. Alors dans la coulisse, on s'interroge, on attend un signe venu d'en haut, mais il ne vient pas. Car il ne faut pas froisser l'homme fort des Pyrénées-Atlantiques, le Béarnais François Bayrou. Quant à La République En Marche, bien embarrassée, elle réserve pour l'heure son investiture. À la faveur des alliances de terrain et des premiers sondages, les choses pourraient se décanter prochainement. Didier Guillaume n'exclut pas de renoncer à son portefeuille ministériel pour se consacrer pleinement à sa campagne municipale. En attendant, les biarrots, peu habitués aux coups de vent politiques, se demandent quand cessera cette guerre picrocolline.
Pierre Neveu. 11 secteurs d'activité vont expérimenter un nouveau type de CDD. Les entreprises pourront remplacer plusieurs salariés par un seul contrat à durée déterminée ou par un contrat d'intérim. Le but du dispositif est de freiner le recours aux contrats courts. C'est nouveau. Le décret permettant sa mise en œuvre a été publié en fin de semaine dernière. Vous nous expliquez, Catherine Pétillon.
La propreté, l'agroalimentaire, le sport, les services à la personne ou encore le social et le médico-social, en tout 11 secteurs vont pouvoir signer ces nouvelles formes de CDD. On les appelle les contrats multi-remplacement. Autrement dit, un seul CDD pour remplacer plusieurs personnes absentes simultanément ou à la suite. Depuis un arrêt de 2012, la Cour de cassation estime que de telles pratiques sont interdites, mais la récente loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a ouvert cette possibilité via un amendement du député En Marche Aurélien Taché. Elle prévoit une expérimentation jusqu'à fin 2022. Cette nouveauté trouve ses racines dans le débat sur les contrats courts. Rappelons que le nombre de contrats courts et très courts a beaucoup augmenté ces dernières années. Syndicats et patronats s'opposent sur la manière, voire la volonté de les diminuer. La mesure est censée permettre aux entreprises où les remplacements sont fréquents de diminuer leur nombre de ruptures de contrat et ainsi d'être moins pénalisées par le futur bonus-malus. Cette modulation de cotisation patronale en fonction du comportement en la matière est prévue pour 2021. Les syndicats, Force ouvrière en tête, restent eux très opposés à cette mesure. Ils la jugent peu efficace en matière de lutte contre la précarité et estiment qu'elle permet surtout de s'affranchir des délais de carence entre deux contrats et de retarder d'éventuelles titularisations.
Catherine Pétillon du service économie de France Culture. 8h08, vous êtes toujours sur France Culture. Vladimir Poutine est attendu aujourd'hui à l'inauguration d'une partie du pont de Crimée, sa partie ferroviaire, un an et demi après la mise en fonction de sa portion routière. Ce pont relie la Crimée à la Russie continentale. En plus de 30 heures tout de même, c'est le temps qu'il faut pour parcourir la distance entre Moscou et la péninsule. Jean-Didier Revoin.
En mai 2018, pour inaugurer le tronçon routier du pont de Crimée, Vladimir Poutine avait lui-même pris le volant d'un camion. Il y a donc fort à parier qu'il sera aujourd'hui dans la cabine de pilotage ou même aux commandes du train qui inaugurera la section ferroviaire de ce même pont. Dès aujourd'hui, fret et passagers pourront gagner directement la péninsule en franchissant le détroit de Kerch sans pour autant devoir embarquer sur un bateau. C'est la fin d'un chantier entamé en février 2016 qui aura coûté un peu plus de 3 milliards d'euros pour désenclaver la péninsule rattachée à la Russie en 2014. 2014. Fin 2014, en effet, les autorités ukrainiennes avaient fermé à tout trafic les deux voies ferroviaires reliant l'Ukraine à la Crimée, contraignant la Russie à se lancer dans la construction d'un pont maritime de 19 km, le plus long d'Europe. Dès aujourd'hui et chaque année, un total de 14 millions de passagers et de 13 millions de tonnes de marchandises pourront emprunter cet itinéraire qui place Moscou à 33 heures de la péninsule pour un trajet de près de 2000 km. Les liaisons seront quotidiennes au départ de la capitale et de Saint-Pétersbourg dans des trains à deux étages. À terme, les autorités souhaitent faire en sorte qu'en termes de prix, le train puisse concurrencer l'avion. Depuis le 8 novembre, date de leur mise en vente, plus de 12 000 billets sont déjà partis avec un prix de départ inférieur à 50 euros au départ de Moscou comme de Saint-Pétersbourg.
Les talibans revendiquent ce matin l'attaque dans laquelle est mort un militaire américain en Afghanistan. Son décès est confirmé par les États-Unis. Il intervient au moment où Washington et les talibans tentent de trouver un accord sur un retrait des forces américaines. Le président américain Donald Trump n'a pas encore réagi, peut-être préoccupé par ce courrier électronique publié hier par un groupe de journalistes d'investigation. Rappelons que Donald Trump est soupçonné d'avoir fait pression sur son homologue ukrainien pour obtenir des informations sur Joe Biden, son rival, l'ancien président démocrate, vice-président démocrate. Dans ce message, un responsable du budget américain demande au Pentagone d'attendre avant de verser une aide à l'armée ukrainienne, et cela une heure et demie seulement après l'appel entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Le président des États-Unis est visé par une procédure de destitution. Il a été mis en accusation la semaine dernière pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Un appel à la solidarité internationale sera lancé lors du sommet de Pau le 13 janvier pour que le Sahel et la France ne soient pas seuls dans ce combat contre le djihadisme, a expliqué hier le président nigérien Mahamadou Issoufou aux côtés de son homologue Emmanuel Macron, venu rendre hommage aux 71 soldats nigériens tués au début du mois. Emmanuel Macron, qui auparavant se trouvait en Côte d'Ivoire, c'est là qu'il a acté la fin du franc CFA. En 2020, la nouvelle monnaie sera l'éco ECO. Cela concerne les 8 pays de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Derrière ce changement se cache un projet très ambitieux, selon François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique.
Cette nouvelle monnaie a vocation à devenir la monnaie unique de toute l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire non seulement des pays d'Afrique francophone, ils sont une dizaine, mais aussi de pays comme la Guinée, le Cap-Vert, la Mauritanie, qui battent leur propre monnaie, mais surtout des 5 pays anglophones d'Afrique de l'Ouest, dont le géant nigérian, avec ses 200 millions d'habitants, qui est la première économie de toute la zone, mais qui est bien loin d'ailleurs d'être l'économie la plus florissante. Alors, ce sera là le vrai défi qui va obliger l'éco à couper définitivement le cordon ombilical avec la France, puisqu'il va à ce moment-là dépendre d'un panier de monnaie, non seulement l'euro, mais aussi le dollar, mais aussi le yuan, bref, toutes les monnaies avec lesquelles l'Afrique de l'Ouest, et l'Afrique de l'Ouest anglophone également, fait commerce, et pas uniquement avec la zone euro.
François Soudan de Jeune Afrique, propos recueillis par Alicia Miami. Quel budget pour Noël? Une bonne partie est consacrée au repas. À table, on vous servira peut-être des bulles, le traditionnel champagne ou alors, et il s'impose de plus en plus, du prosecco italien, moins cher. Les ventes sont en forte hausse. La Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne s'arrachent cette boisson. La France arrive quatrième, mais il ne faut pas s'y tromper. C'est le pays où les exportations ont le plus augmenté. Bruce de Galzin s'est rendu chez un producteur.
Giorgio Pollegato produit du prosecco dans les collines de Vénétie. C'est une histoire de famille depuis 3 générations, mais c'est Giorgio qui, il y a 30 ans, lance la maison Astoria. 70 employés aujourd'hui, 40 hectares et de plus en plus d'exportations, d'abord en Angleterre, en France aussi, plus 30% cette année. Mais pour Giorgio Pollegato, il n'y a pas vraiment de concurrence avec le champagne.
Pour faire du champagne par excellence, on utilise la méthode champenoise. C'est totalement différent pour le prosecco, dont la fermentation se fait dans de grandes cuves en acier et pas en bouteille. C'est un produit que l'on boit jeune, frais, avec plus de sucre que le champagne. Et c'est un peu la chance du prosecco, parce qu'il plaît à tout le monde, aux femmes en particulier. Sa consommation a explosé de manière incroyable. C'était impensable, il y a quelques années.
Son prix est aussi un atout, 5 à 7 euros. Peut-être également la publicité d'un certain cocktail, estime Domenico Bosco, spécialiste des vins à Col di Reti, la plus grande fédération agricole.
Une des raisons du succès, c'est que le Prosecco se boit aussi à l'apéritif et que beaucoup de nouveaux consommateurs sont arrivés grâce à la mode du Spritz.
20 millions de bouteilles de Prosecco devraient se vendre en France cette année et c'est encore loin des 145 millions de bouteilles de champagne.
Le reportage de Bruce de Galzin. Après le passage de la tempête Fabien, l'aéroport d'Ajaccio en Corse est toujours inondé. Il reste fermé aujourd'hui. Air Corsica met en place 87 vols pour la journée à disposition des passagers au départ de Bastia et à destination d'Orly, Marseille, Lyon et Toulouse notamment. Météo France a levé ce matin la vigilance orange vent fort pour la Corse. Elle est en revanche maintenue en Savoie, cette fois pour des risques d'avalanche. Du orange aussi pour le Finistère, l'Ille-et-Vilaine et la Charente-Maritime, département surveillé par Météo France pour des risques d'inondation. Le temps aujourd'hui est encore nuageux avec des averses dans l'ouest, du soleil de Marseille à Nice. Vous n'aurez pas plus de 10 degrés à Lille, 11 à Paris, 12 à Lyon, 14 à Bordeaux et 17 degrés à Nice-Hervé.